ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour, bonjour. Vous écoutez votre émission de jazz préférée, comme à la radio. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'inviter M. Thomas de Parientes, qui est à Cannes, l'adjoint à la culture et à la jeunesse. Alors, avant de parler de musique, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours pour devenir adjoint à la culture et aimer le jazz?
Peut-être que les deux conditions sont liées, je n'en sais rien et je ne pense pas qu'il y ait un parcours spécifique pour devenir adjoint à la culture et à la jeunesse d'une commune telle que Cannes. Mon parcours est celui d'un jeune universitaire, enseignant-chercheur et qui aimait beaucoup son métier, et j'étais également journaliste-économiste. Dans les années 90, des années où justement le jazz est totalement venu à moi, où je suis allé le chercher également. Et puis ensuite c'est un parcours qui a évolué, sachant que j'accompagnais des collectivités territoriales, des médias nationaux et des clubs de football professionnels dans leur business model, ce qui était un rôle de consultant qui m'a beaucoup plu. Et depuis maintenant 5 ans, j'ai fondé avec des amis et des associés une start-up qui est à Nice et qui intervient dans le domaine du football. Donc des domaines qui peuvent paraître peut-être un peu étrangers à la culture, enfin la culture pas forcément d'ailleurs, elle peut être populaire de toute façon, mais... Comment y être revenu? Tout simplement parce que je crois partager une vision du territoire qui est le nôtre. Alors je parle d'une ville, Cannes bien évidemment, mais peut-être plus largement d'un territoire azuréen. Et avec David Lisnard, qui est devenu maire de Cannes, nous avons, je crois, proposé une vision pour un certain nombre d'années sur ce que peut devenir Cannes. Et dans cette vision, il y a précisément le rôle que l'espace, que la culture, que le sport peuvent tenir. Et David Lisnard a souhaité me confier deux délégations, donc la culture et la jeunesse, que j'ai embrassé avec un immense plaisir, fierté aussi, mais une vraie lourde charge qui, cumulée à une fonction de dirigeant d'entreprise, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais en tout cas pas de tout repos. Mais cela permet d'avoir finalement deux activités très très complémentaires, et puis ce qui importe donc c'est de mettre à profit cette vision pour la concrétiser. Et la musique en général, le jazz en particulier, tiennent une importance majeure dans cette acception.
Alors jazz, puisque vous avez prononcé le mot jazz, aujourd'hui les auditeurs de Comme à la radio vont avoir la chance d'une programmation éclectique et très riche que vous nous avez préparé. Et en premier, nous allons écouter My Favorite Thing.
Effectivement, de George Coltrane, en trio, vous le savez, avec Michael Tyner et Elvin Jones. Je voudrais juste dire que ça a été un casse-tête phénoménal que de sélectionner à votre invitation 5 titres. J'en avais 100, j'en avais une centaine, et choisir les 5, finalement, est-ce qu'il faut choisir des standards? Est-ce qu'il faut choisir ceux qui paraissent évidents? Non, j'ai essayé d'être totalement moi-même, et ce dont je me suis rendu compte grâce à vous, et que le jazz ramène toujours à des lieux, ramène à des émotions, ramène à des instants de vie. Et si je parle de My Favorite Things, c'est qu'il a pour moi une importance majeure. C'était en 96 en particulier. J'enseignais à Odessa en Ukraine, à l'université, et j'avais un parcours quotidien pédestre qui m'amenait de mon domicile jusqu'à l'université, qui faisait 13 minutes 53 exactement. C'est exactement la durée de My Favorite Things. J'avais un gros Discman comme on pouvait avoir à l'époque, et ce morceau me réchauffait, ce morceau m'a totalement transporté, et notamment ces 5 minutes où Michael Tyner, qu'on entend là en fond, s'envole, à mon sens, avec Elvin Jones, qui simplement, Simon, l'accompagne à la batterie. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai peut-être souhaité ne pas sélectionner le passage où Coltrane intervient.
Thank you. difficile de parler dessus, mais on va s'y résoudre. Vous disiez tout à l'heure jazz et lieu. Alors, quel est le lien pour vous entre jazz et lieu? On n'entend pas souvent cette phrase.
Le lien, ce sont des moments de vie, et puis le lieu qui a conditionné ma propre vie et autour de laquelle je souhaite l'articuler, qui est Cannes, qui est une ville que j'aime passionnément et qui est une ville assez magique par sa diversité, par sa richesse. Et justement, Cannes, ce sont aussi des lieux de jazz, des lieux historiques pour certains. Je pense à Studio 13 et à la MJC Picot, bien évidemment, et je pense à ces vendredis soirs Jazz 13 qui ont illuminé les vendredis soirs des années 90-2000. Et puis, il y a des lieux peut-être plus majestueux, comme la Villa d'Omergue, où il y a le Festival de Jazz de Cannes l'été. Et puis, c'est tout simplement le lieu que l'on choisit. Le lieu que l'on choisit, et je n'aime rien tant que m'imaginer ou me voir le dimanche soir, vous savez, en toute fin de journée d'hiver, quand il fait nuit, et puis vous vous baladez, il y a une espèce de luminosité extraordinaire, c'est fin de journée, et puis du jazz. Il n'y a rien de mieux à ce moment-là que d'être avec ses écouteurs ou tout simplement sa chaîne et profiter de tout ce que le jazz a apporté. Et justement, les lieux, eh bien, il convenait à mon sens et à notre sens de pouvoir les redéployer notamment à Cannes, et faire en sorte que la programmation jazz, qui avait peut-être un tout petit peu décliné, je parle en quantité, je ne parle pas de qualité, il convenait peut-être de les réactiver, et un lieu en particulier, à notre sens, s'y prêtait pleinement. Il s'agit du Théâtre Alexandre III.
Alors, Alexandre III, on va en parler tout à l'heure, après avoir écouté justement, et ça n'est pas un hasard, un morceau qui a un nom de lieu, puisque c'est la Cité de la Musique que vous avez choisi.
Exactement, c'est une œuvre qui m'accompagne au quotidien, qui est de Dino Saluzzi, un bandoneoniste. Alors, il est publié chez ECM, et j'ai découvert cet opus il y a 7-8 ans à peu près. Je crois que l'album date de 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Et je n'imagine pas ce lieu créé ailleurs qu'en Méditerranée et pour la Méditerranée. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on parle d'un Argentin. La Cité de la Musique de Dino Saluzzi en trio et vous emmène, vous emporte, vous transcende. C'est un morceau très calme, vous le verrez, qui s'appelle lui-même La Cité de la Musique, c'est le morceau éponyme, et c'est vraiment heureux pour moi d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire découvrir.
Dino Saluzzi, choisi par Thomas de Pariente. sur RCF. Vous écoutez votre émission de jazz comme à la radio avec aujourd'hui notre invité Thomas de Pariente, adjoint à la culture et à la jeunesse pour la ville de Cannes. Et nous parlons de jazz et nous parlons de lieux. Et dans ces lieux, il y a quand même une nouveauté que vous évoquiez tout à l'heure, qui est le théâtre Alexandre III.
Effectivement, c'est un bel édifice des années 20, qui était, comme son nom l'indique, assez exclusivement réservé au théâtre. Et nous avons souhaité à la fois le reprendre en régie municipale et surtout en étendre la qualification, étendre la programmation. Je crois d'ailleurs qu'on l'a multiplié par 12 en un an, tout en baissant d'ailleurs son budget de fonctionnement, parce qu'on doit répondre aussi à ce type d'impératif. Et à la fois pour disposer d'un équipement culturel de qualité à l'est de Cannes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, non pas de qualité, mais pas beaucoup d'équipements dans une zone qui est assez résidentielle, mais aussi pour donc en étendre la qualification. Il me semble que le jazz et la musique plus généralement, avait toute sa place. Et il ne s'agit pas pour nous, Ville de Cannes, de dire nous allons programmer exclusivement, mais c'est offrir la possibilité à tous les opérateurs et tous ceux qui ont une qualité de programmation de venir proposer leurs artistes. Et depuis quelques mois, je crois que nous sommes très gâtés. Ça a commencé, je tiens à les en remercier, par la MJC Picot, justement, qui est sortie de ses murs et qui nous a proposé, je pense, l'un des groupes majeurs du jazz moderne, qui est Gogo Penguin, qui est venu se présenter. Et puis vous, cher Alex, on a discuté il y a quelques mois, je me permets de le dire, parce que j'étais absolument pas jaloux, mais j'ai été admiratif de la programmation de So What et de Jazz Soulay Bigara d'Yael Lagod. Et l'idée de décloisonner les territoires nous est venue. Vous programmez un festival d'excellence, il est à côté de Cannes, il serait dommage que les Cannois n'aient pas la possibilité de le découvrir d'une autre manière. Alors évidemment, en allant jusqu'à Lagod, et je les y engage fortement, mais également en pouvant bénéficier de vos facultés, de vos qualités de programmateur. Et c'est ce que l'on a fait en initiant Jazz Soulay Bigara d'Yael à la salle Alexandre III, avec ce concert qui a été, je crois, remarquable, du sextet d'Anne Quillier. On a passé un moment assez extraordinaire. Donc c'est faire en sorte que l'on fidélise et que l'on reconquiert aussi un public lié au jazz. Sébastien Ciccolella est venu jouer il n'y a pas longtemps. Bref, les jeudis du jazz vont nous aider à cela. Et puis, par-delà le théâtre Alexandre III, je note et enregistre avec beaucoup de satisfaction que beaucoup d'opérateurs se réempare totalement la thématique du jazz. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, encore une fois, Picot programme Hugh Coltman, c'était il y a une quinzaine de jours. Et puis, nous avons de grands passionnés, je pense à Bernard Weidmann en particulier, qui joue en tout lieu et à toute heure à Cannes, l'autre jour au marché Fortville avec Jean-Marc Jaffé en trio, c'était parfait. Et encore Jean-Marc Jaffé qui est venu, c'était à Mimont l'autre soir, jouer. Ce sont des moments magiques justement qui à la fois rappellent ce que pouvait être une forme de jazz à Cannes dans les années 90-2000 et puis surtout finalement de nouveaux formats. Et reconquérir un public, le réhabituer à cette esthétique est une de nos ambitions.
RCF Nice Côte d'Azur, à Cannes, 96.8.
C'était Texier, l'immense contrebassiste dans Laguna Veneta, avec un invité, Galliano, vieille famille de Bar-sur-Loup, ce qu'on ne sait pas toujours.
Exactement, un album de 93, The Indian's Week, qui est pour moi assez extraordinaire.
Et le jazz, c'est la culture, c'est la jeunesse, mais est-ce que c'est toujours le cas jazz et jeunesse? Est-ce que ça va vraiment ensemble?
Ça doit aller ensemble. C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux, dans la mesure où le public jazz n'est pas nécessairement le public le plus jeune, mais il y a à la fois, je crois, un renouvellement de la scène jazz qui peut s'adresser aux plus jeunes. Tiens, on parlait tout à l'heure de Go-Go Penguin, je pense que typiquement, c'est le type de groupe de formation de jazz qui peut intéresser un jeune public. Et puis, si l'on veut éveiller la jeunesse à la musique en général, au jazz en particulier, il faut aussi saisir des opportunités. Ces opportunités, ça peut être les scènes de musique actuelles que nous essayons de relancer. C'est aussi un conservatoire. Un conservatoire qui, par exemple, à Cannes, accueille 1100 jeunes cannois en particulier, mais également des adolescents d'autres communes. Et justement, la scène jazz au conservatoire est vraiment intéressante. Je pense à un jeune saxophoniste, Julien Ndiaye, par exemple, qui est en train de débuter une carrière. Il a un potentiel fou. Je n'imaginais pas parler de lui aujourd'hui, mais à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il nous surprend. Et je me dis que précisément, avec des talents comme le sien et comme ceci, il est possible d'éveiller davantage au jazz la jeunesse de notre territoire.
Alors, jeunesse et jazz, vous avez raison, ça doit aller de pair. Et donc, Thomas de Pariente, qu'avez-vous choisi pour donner envie aux jeunes de venir au jazz?
Un pianiste que j'aime par-dessus tout, qui est Giovanni Mirabassi. Pour choisir l'œuvre, ça a été difficile, parce que j'ai en particulier adoré deux de ses albums, Avanti en 2000 et Adelante, qui devait être en 2011 à peu près, avec des chants révolutionnaires pour certains, ou des chants de liberté. Et j'ai choisi un chant emblématique, qui est le chant des partisans, qu'il revisite de façon admirable dans ses concerts, et puis à travers cet album Avanti, qui n'est plus édité. Donc retrouver le morceau n'était pas ce qu'il y a de plus facile, mais je suis ravi de pouvoir le porter à votre connaissance, même si vous le connaissez bien évidemment.
Hélas, le temps passe bien vite avec cette excellente musique choisie par Thomas de Pariente, adjoint à la culture et à la jeunesse de Cannes. Peut-être deux mots sur ce qu'il se passe d'autre à Cannes au niveau de la culture avant d'écouter le dernier morceau que vous nous avez choisi.
Avec joie, l'idée étant de rendre la culture la plus vivante et la plus déployée possible au sein de notre territoire. La rendre vivante, c'est permettre aux artistes, quel que soit leur domaine d'excellence, leur permettre de s'exprimer. Et la politique que nous menons tient justement à cette philosophie qui est de permettre la création. Et nous avons réalisé une résidence d'artistes qui n'existait pas, de la même façon qu'il peut exister la Villa Arson, par exemple, à Nice, et bien, au Suquet, que nous avons voulu vraiment qualifier comme quartier d'art, quartier de culture. Et bien, nous avons ouvert notre première résidence d'artistes avec trois artistes qui comptent, qui produisent sur place, une extension qui va arriver de 500 nouveaux mètres carrés d'ici cette année. C'est faire en sorte qu'il y ait des compagnies professionnelles de théâtre, de danse, de chant dans toutes les écoles de Cannes, parce que nous avons un très vaste programme d'éducation artistique et culturelle. La DRAC, je crois, nous ayant désigné comme ville pilote en la matière. C'est faire en sorte que l'ensemble des esthétiques soit représenté dans les murs, hors les murs également. Si l'on peut faire sortir la culture et l'art des murs qui les enveloppent, c'est tout aussi bien. Et à titre d'exemple, ces 45 vaches de la KO Parade, habillées par beaucoup d'artistes, 45 en l'occurrence, tout au long de cet automne, a été quelque chose d'un peu intéressant. Bref, c'est la rendre la plus variée, la plus riche possible, et on peut s'appuyer vraiment sur un tissu de programmation de très grande densité.
Et en parlant de variété, de densité, vous avez choisi pour terminer Chick Corea.
Je suis fanatique de Chick Corea, même si je ne suis pas fanatique de tout Chick Corea. Mais les années 80 et toutes ces associations, en particulier avec Gary Burton au vibraphone, et comme ici, ce Lyric Suite for Sextet qui est de 82, avec ce morceau qui s'appelle Brasilia, que j'ai découvert là aussi dans un lieu. Un lieu, c'est je suis pas fanatique de montagne, je l'avoue, mais j'étais, je crois, à Beuil, un soir d'hiver avec des amis, un soir d'hiver 90, et ce morceau a été joué toute la nuit. J'en suis fanatique par le repos et par l'appel à la réflexion qu'il peut susciter.
Et c'est sur Brasilia que nous allons nous quitter. Amis auditeurs de Comme à la radio, au revoir. À très bientôt, et merci encore de ces choix, Thomas de Pariente.
Un immense merci à vous.